Aussitôt, elle traversa le pré et entra dans la maison, laissant Dalphon Renaud stupéfait. Une jeune femme sortit quelques minutes plus tard. « Excusez la façon dont on vous reçoit, monsieur, » dit-elle. « Je crois que Claire a perdu la tête. Elle emballe ses effets et veut retourner à la Rosière sans perdre une minute. Mais, outre que la dernière poste est déjà partie, il ne convient pas que Claire voyage de nuit avec... avec vous, monsieur. » « Oh, je ne suis guère compromettant, » fit Dalphon, qui sourit en voyant que son interlocutrice, tout bien considérée, partageait cet avis. « Non, non, » reprit-elle, « vous partirez demain matin. Nous pourrons vous offrir un lit, monsieur. »« Merci, » répondit Dalphon, très contrarié, car il craignait que, dans l'intervalle, Claire ne regrettât sa décision soudaine. « Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Je voudrais partir à l'instant même. » « Impossible, monsieur. Il n'y a plus de poste aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Mais voilà une singulière histoire, » s'écria la jeune femme. « Est-ce que Claire était ici sans le consentement de sa famille ?» Dalphon hésita. « Elle vous expliquera cela elle-même, » répondit-il. « Quant à moi, je ne sais pas encore comment elle se trouve chez vous. » « C'est bien simple. Nous venions d'arriver à Martel et mon mari m'avait envoyé un soir au pont chez sa mère qui était malade et voulait me voir. Comme je traversais la rue, j'aperçois la diligence qui allait entrer dans la cour des postes. Je m'arrête pour regarder les voyageurs qui en descendraient et je reconnais à la portière la figure de mon ami. Nous étions intimes autrefois, monsieur. C'est Claire qui m'a donné ma couronne de noces. » Elle me voit au même moment et court après moi. « Comment es-tu ici ?» que je lui fais toute surprise. « Je suis malade, » répond-elle. « J'ai besoin d'un changement d'air. » Elle avait mauvaise mine, en effet, les yeux cernés, les lèvres blanches. « Mais c'est à moi de m'étonner, » continue Claire. « Que fais-tu donc au pont, tandis que je te croyais au fond du canton de Vaud ?» Je lui racontai notre déménagement, que je n'avais pu lui annoncer à l'avance, parce qu'il avait été très subit et que nous avions eu 1000 tracas. Tout à coup, elle me prit les deux mains en disant « Je vais chez toi. Non, pas ce soir, je suis trop fatiguée. Je passerai la nuit chez une vieille cousine que j'ai ici. Mais demain matin, je pars pour Martel. Ne me dis pas non, je t'aiderai dans ton ménage. » Si tu as encore tes outils de pierriste, je travaillerai avec toi. Je suis bonne ouvrière et je gagnerai largement la pension que tu me donneras. » J'étais si surprise que je ne pensais pas à la questionner. Quand je revins à la maison, mon mari me demanda « Mais pourquoi t'as-tu quitté la Rosière ?»« Pour changer d'air, » que je lui répondis. Cette raison ne lui sembla pas très forte. Le lendemain, Claire arriva avec sa petite valise et la première chose qu'elle me dit fut « Donne-moi donc une plume et de l'encre, je vais écrire à ma marraine. » Dès lors, je pensais que tout était en règle, puisqu'elle écrivait à ses gens. Elle avait du chagrin, ça se voyait. Quand j'essayais de la questionner, elle pleura en me priant de la laisser seule. 15 jours après, elle écrivit encore. Ce qui m'étonnait et me chagrinait pour elle, c'était de voir que le facteur passait toujours devant notre maison sans lui apporter de réponse et je me mis dans l'esprit que sa marraine était fâchée contre elle. « Comment se fait-il, » interrompit Dalphon, « que cette seconde lettre, qui est bien parvenue à la Rosière, ait été datée de Saint-Blaise ?» La jeune fermière réfléchit un instant. « Voyons, » murmura-t-elle, « Claire l'a écrite un samedi soir. C'est bien cela. » Le lendemain, notre domestique allait voir ses parents qui demeurent à Saint-Blaise. Claire lui aura donné la lettre en le priant de la mettre à la poste là-bas. Mais pourquoi ces détours? Voyons, monsieur, si vous êtes au courant, expliquez-moi donc tous les zigzags de cette histoire. Claire vous en dira elle-même ce qu'elle jugera bon, répondit Dalphon Renaud avec réserve. Je vais maintenant à la poste retenir nos places pour demain. Je passerai la nuit à l'hôtel et je viendrai de bonne heure à la rencontre de Claire. Tâchez, madame, tâchez, je vous en prie, que ses intentions ne changent pas. Son bonheur et peut-être la vie d'un autre en dépendent. » La fermière, très intriguée, rentra chez elle, tandis que Dalphon reprenait la route du village. il s'agita jusqu'au lendemain dans une mortelle impatience. Ce qu'une impulsion avait fait, une autre pouvait le défaire. Dalphon connaissait peu les femmes et craignait les inconséquences de leur volonté ondoyante et fragile. Il ne savait point qu'il avait touché dans le cœur de Claire le ressort le plus puissant quand il avait dit « Celui que vous aimez souffre, il a besoin de vous ». Aussitôt que le soleil fut levé, il sortit et s'achemina du côté de Martel, s'efforçant de reconnaître Claire de loin, au bout de cette longue route droite qui s'étendait devant lui. « La voici » s'écria-t-il tout à coup, plein de joie. À vrai dire, ses yeux myopes ne distinguaient qu'une tache brune au milieu du chemin. Mais cette tache brune s'avançait avec une vivacité de mouvement qui rappelait à Dalphon la démarche de Claire. « Cela prend une drôle de forme » murmura-t-il au bout d'un instant en abritant ses yeux de la main pour mieux voir. « Est-ce bien clair ? Par moments, je vois deux taches au lieu d'une. Peut-être que son ami l'accompagne. » Dalphon n'était pas encore au terme de ses conjectures quand la tache, trottant toujours, se rapprocha de lui et il aperçut deux gros moutons serrés l'un contre l'autre, suivant la coutume de leur espèce, et qui couraient allègrement, échappés sans doute de quelque étable voisine. Dalphon sourit de sa méprise et se remit en route. « Cette fois-ci, c'est bien Claire que j'aperçois, » fit-il au bout de quelques minutes. « Elle porte un paquet ou une valise, et je reconnais la couleur de sa robe. » « Mademoiselle Claire, » cria-t-il, « dépêchez-vous, la poste part dans une demi-heure. » Il lui tardait de voir la jeune fille installée dans la voiture, de fermer lui-même la portière sur elle et d'entendre le clic-clac des fouets qui donnerait le signal du départ. Alors seulement, il craindrait un peu moins de voir Claire lui échapper. Il avançait à grands pas à la rencontre de la jeune fille, tendant déjà la main pour la décharger de son paquet, quand il s'arrêta déconcerté. Une grosse paysanne en cotillon court et souliers plats, portant au bras un panier rempli de beurre, passait à côté de lui d'un air narquois en murmurant « Ce monsieur-là a l'air un peu dératé tout de même. Il m'appelait Mademoiselle Claire, moi qui ai 40 ans sur la tête et 8 enfants à la maison. Il faut qu'il soit dans les brouillards. » « C'est la route au mirage, » pensait Dalphon. « Si j'étais Don Quichotte, je croirais qu'un méchant enchanteur a métamorphosé Dulcinée et qu'elle m'échappera sous quelque forme étrange. » Il marchait le front baissé. On dit que la nuit porte conseil, pourvu qu'elle n'ait pas donné à Claire quelque avis funeste. Peut-on espérer que la résolution d'une femme tienne du soir au lendemain ? « Bonjour, monsieur Renaud !» dit la voix de Claire, plus joyeuse et plus vibrante que la veille. Dalphon leva les yeux en tressaillant. Cette fois, c'était bien Claire et non plus quelque décevant trompe-l'œil. « Ah » fit-il avec un soupir de soulagement, « j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Dépêchons-nous, je vous en prie, sinon nous manquerons la poste. » Il lui prit son bagage et rebroussa chemin avec de longues enjambées qu'elle avait peine à suivre. Ils n'échangèrent pas un mot jusqu'à l'entrée du village. « Monsieur Dalphon, » dit enfin Claire en s'asseyant sur un banc, tandis qu'on mettait les chevaux à la diligence, « n'imaginez pas que j'aille faire la paix avec Luc, ni que les choses puissent être jamais comme elles étaient. J'y ai réfléchi toute la nuit. Vous avez exagéré la maladie de mon cousin, j'en suis convaincue. Je crois aux fluxions de poitrine, aux fièvres, aux pleurésies, mais qu'on dépérisse de chagrin, non, je n'y crois pas. » « Vous n'avez pourtant pas trop bonne mine vous-même, » répondit Dalphon tranquillement. « Moi, oh, c'est autre chose. Les femmes ont quelque tendresse pour leur malheur. Quant à Luc, enfin, je verrai. Je ne vais à la Rosière que pour cela. Je m'assurerai par mes yeux de l'état des choses. » Et je reviendrai à Martel, bien tranquille sur les peines de cœur de mon cousin. » L'amertume de son ton peina Dalphon Renaud. Mais à quoi bon discuter ? Qu'il se voie seulement et tout s'arrangera, pensa-t-il. Ils causèrent peu durant le trajet. Les deux autres places d'intérieur étaient occupées. D'ailleurs, même si Claire et Dalphon eussent été seuls, ils auraient gardé le silence, n'ayant plus rien à se dire sur le sujet qui les préoccupait tous deux et n'étant pas d'humeur à parler de choses indifférentes. Quand ils arrivèrent en ville, Dalphon Renaud proposa de prendre une voiture pour arriver plus vite à La Rosière, mais Claire refusa. Elle espérait que la marche calmerait son agitation intérieure et qu'elle pourrait ensuite aborder froidement son cousin. Ils se mirent donc en route à pied. L'air était tiède, un souffle printanier passait sur les champs. Le ciel, d'un bleu pâle et fin, était parfaitement pur, sauf vers l'ouest, où voguait une flottille de petits nuages blancs. Ci et là, une tache verte égayait la monotonie des prés jaunis. Dans les touffes d'herbes desséchées qui pendaient au bord des talus, quelques pâquerettes se hasardaient à ouvrir leurs corolles rosées. Claire, dans sa préoccupation, ne songeait guère au temps qu'il faisait. Cependant, le joyeux sourire de la nature, qui renaît après les mortelles tristesses de l'hiver, égaya son cœur sans qu'elle y songeât. Elle se prit à espérer vaguement quelque chose, un second printemps pour son amour effeuillé, un gai renouveau pour sa fleur de jeunesse qu'une brusque rafale avait brisée et jetée à terre. Les deux voyageurs prirent un sentier qui coupait le dernier contour de la route. Encore une pente à descendre, un petit plateau à traverser, et l'on apercevrait le toit gris de la maison au fond de sa combe. Tout ce paysage familier parlait à Claire, les souvenirs se pressaient autour d'elle, elle entendait leurs voix connues, la forêt chantait sa grande musique mystérieuse, la mousse du sentier semblait garder avec tendresse les pas de la jeune fille, les buissons qu'elle connaissait depuis son enfance la frôlaient de leurs bourgeons bruns, tout lui disait « Tu reviens enfin, ne t'en va plus !»« Ah, voici la Nouve !» dit-elle en s'arrêtant. Sur un petit replat, bien exposé au soleil et déjà verdoyant, s'étendait une de ces jolies mares que dans le Jura on appelle des Nouves et où les troupeaux viennent s'abreuver en été. Celle-ci reflétait le ciel bleu et brillait comme une plaque d'acier poli. Des tussilages l'encadraient de leurs larges feuilles qui sont les premières à se montrer au printemps. Au-dessus, jusqu'à la limite des pâturages, montait une pelouse inclinée. Au-dessous, on apercevait le petit vallon où quelques taches de neige se cachaient encore dans les plis du terrain. Luc était assis sur une pierre, les coudes sur ses genoux et la tête dans ses mains. Comme il tournait le dos au sentier, il ne vit pas Claire. La jeune fille regarda Dalphon d'un air irrésolu, mais il n'y prit pas garde, s'avança rapidement vers Luc et lui mit la main sur l'épaule. « Elle est retrouvée, » dit-il. Il ne dit point « je l'ai retrouvée », le mot « je » étant de ceux qu'il employait le moins fréquemment. Luc ne répondit rien, mais il se leva fort pâle et regarda Claire. Il n'osait lui parler. Dalphon, sans même tourner la tête, s'éloigna aussi vite qu'il put. Luc et sa cousine restèrent en présence, silencieuses et immobiles. Mais le jeune homme, quoique abattu par son chagrin, était encore trop impétueux pour supporter longtemps l'incertitude. « Te voilà revenu, » dit-il. « Est-ce pour m'accuser ou pour me pardonner ?» Claire ne répondit rien tout d'abord. Elle regardait Luc avec un douloureux étonnement. Ce que Dalphon lui avait dit était donc bien vrai. Luc était malade. Elle ne le reconnaissait que trop à cet air de langueur qui avait remplacé la pétulante vivacité d'autrefois, à ses yeux creusés, à ses mains amaigries. « Comme tu es changé !» fit-elle à voix basse. Puis, tout à coup, cédant à une impulsion bien féminine, elle oublia les torts de Luc pour ne plus sentir que la cruauté de ses représailles à elle. Un remords soudain lui traversa le cœur comme une lame aiguë. Par un mouvement spontané, elle jeta ses deux bras autour du cou de Luc. « J'ai été méchante, » murmura-t-elle. « J'ai voulu me venger. Comme je t'ai fait souffrir, Luc. Pardonne-moi. » Des mots se pressaient sur les lèvres du jeune homme, mais il ne pouvait parler. Il serrait Claire contre lui, craignant qu'elle ne lui échappât encore. Il se pencha vers elle, la tenant toujours enlacée, et baisa ses cheveux blonds. « Claire, dit-il enfin, ne sois pas trop généreuse. J'ai mérité un rude châtiment. » Mais elle lui mit une main sur la bouche. « N'en parlons plus. C'est assez de savoir que nous nous aimons. J'aperçois ma reine. Viens lui présenter ta fiancée. » Madeleine Offrand se tenait à l'entrée de la cour, le cœur palpitant, les yeux pleins de larmes, ne pouvant croire encore que sa fille, qu'elle avait cru perdue, était retrouvée. Son mari et Dalphon Renaud étaient à ses côtés. Louis Offrand avait bonne envie d'escalader la colline de son pas de chasseur pour saisir Claire dans ses bras robustes et de la rapporter à la maison comme une captive. Mais il craignait de troubler les deux jeunes gens dans leur premier entretien. Enfin, on les vit paraître au bord du plateau. Leur silhouette élancée se dessinait sur ce radieux ciel de printemps. La jeune fille s'appuyait sur Luc, qui semblait déjà plus fort et marchait d'un pas plus ferme. Tout à coup, deux alouettes s'élancèrent d'un champ voisin et montèrent ensemble, ivres de joie et de lumière, vers les profondeurs du ciel. Leur clair gazouillement se fit entendre longtemps. Elles n'étaient plus elles-mêmes que deux points imperceptibles dans le bleu, que leurs notes joyeuses et perlées s'égrenaient encore vers la terre. Claire et Luc se serrèrent la main, ils étaient émus sans savoir pourquoi. « Eh, dépêchez-vous donc !» s'écria Louis Offrand n'y tenant plus. « Je veux embrasser Claire, mille bombes, quoiqu'elle ne le mérite guère. » Il frotta sa rude moustache contre les joues de la jeune fille, puis poussa la filleule dans les bras de sa marraine. « Surtout, pas d'effusion !» s'écria-t-il. « Je déteste les pleurs, moi !» En même temps, il se détournait pour se frotter énergiquement les yeux avec sa manche. Ils entrèrent tous ensemble dans la grande cuisine où Finette les accueillit par un jappement plein de réserve et de dignité. Finette était mère depuis quelques jours. Elle veillait avec un soin jaloux sur la corbeille où trois petites boules blanches et brunes, serrées les unes contre les autres, dormaient du sommeil de l'innocence. Lyon avait maigri depuis que son maître était malade. On lisait une vague tristesse dans ses yeux expressifs. Il vint lécher la main de Claire, mais sans grand enthousiasme, remuant la queue et les oreilles, comme pour dire « Ah, il est bien temps que vous reveniez, maîtresse !»« Comment pourrons-nous jamais, commença Madeleine, vous remercier assez, monsieur Renaud ?»« En ne me remerciant pas, interrompit Dalphon qui devint tout rouge. Quand on a un ami, c'est pour lui rendre service à l'occasion, n'est-ce pas ? Luc en aurait fait autant, et bien plus, je le parie. » Luc serra énergiquement la main de Dalphon. « Le malheur est que vous n'aurez jamais besoin de mes services, » dit-il. « Tout au contraire, je réclamerai votre aide aussitôt que vous serez entièrement rétabli. » Tous prêtèrent l'oreille. Dalphon se tut un instant. Par la petite fenêtre de la cuisine se glissait un rayon de soleil qui enveloppait Claire d'une auréole de poussière dorée. Sa tête charmante, son buste penché, les plis de sa robe bleue et ses mains jointes sur ses genoux étaient doucement caressés par la lumière. Tout le reste de la cuisine était dans l'ombre. La jeune fille était le centre du tableau, la figure aimable et chérie vers laquelle se tournaient tous les regards. Cette blonde clarté semblait émaner d'elle. Dans ce rayon, elle semblait si blanche et si belle que Dalphon détourna les yeux avec un soupir. Luc, assis sur une chaise basse à côté de Claire, ne la quittait point du regard. Une expression de joie, trop intense encore pour être paisible, rayonnait dans ses yeux ardents. Son père, accoudé sur la table, mâchonnait sa grosse pipe sans s'apercevoir qu'elle était éteinte, caressant Finette et faisant des avances à Lyon, qui n'y répondait qu'avec beaucoup de réserve. Madeleine allait et venait, ouvrant la valise de Claire, casant le linge de la jeune fille dans les armoires, impatiente que tout fût comme avant et qu'on oubliât le triste passé. « Je ne vous ai pas encore annoncé, reprit Dalphon, que je quitte aussi la maison Molaire. » Chacun poussa une exclamation de surprise. « Je deviens ambitieux, poursuivit-il. Je veux être mon maître, faire fortune si possible. Si j'attends encore quelques années, il sera trop tard. » Luc secoua la tête. « Non, dit-il, vous nous cachez la vraie raison. Vous n'êtes pas ambitieux et vous aimiez votre emploi. Auriez-vous... » Il se leva avec impétuosité et posa la main sur l'épaule de son ami. « Auriez-vous perdu votre place à cause de moi ?» Dalphon sourit. « Et quand cela serait, dit-il, je ne regrette rien. J'ai des économies, mais je ne suis pas entreprenant. Vous me pousserez, j'en ai bien besoin. À nous deux, nous ferons quelque chose. « Monsieur Moller m'a rendu le dessin de votre outil, vous en inventerez d'autres, nous fonderons une maison, un atelier de mécanique. Je connais la fourniture, depuis la moindre vis jusqu'aux tours les plus compliqués. » « Vous allez croire que je me vante, » fit Dalphon avec embarras. « Mais j'ai vraiment quelque expérience et grâce à l'esprit actif de Luc, je crois que nous réussirons. Votre main, Luc, fondons aujourd'hui même la maison de commerce Offrant et Renault. » « Renault et Offrant, » répondit Luc. « Votre nom le premier. »« Pas du tout. Cela sonne mal à l'oreille. Vous ferez mieux d'adopter ma rédaction. Mais nous aurons le temps de discuter là-dessus. »« Monsieur Dalphon, vous ne savez pas combien je vous aime !» s'écria Claire. « Luc, tu permets ?» Sans attendre de réponse, elle courut à Dalphon Renault, lui entoura le cou de ses bras et lui mit un franc baiser sur la joue. Puis, un peu honteuse et effrayée, elle reprit sa place en rougissant. « Bravo !» dit Louis Offrant. « Elle vous devait bien cela, monsieur Renault, pour votre peine. Sans vous, elle serait encore à se morfondre dans les brouillards de Martel, avec la vue des tourbières pour toute consolation. » Dalphon Renault rougissait aussi. Ce baiser de sœur l'avait remué jusqu'au fond de son être. Il n'estimait pas avoir mérité une telle récompense. « Comme cela, dit Claire, et avec l'aide de M. Dalphon, tout sera réparé. Tu n'aimes guère l'état de paysan, Luc. Il te faut de grandes entreprises. Je ne serai pas un bâton dans tes roues, tu feras fortune encore. » « Ah !» répondit Luc en la regardant, « je suis assez riche, ma petite Claire, depuis que je t'ai retrouvée. »